Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Lex Formativa, le magazine juridique de la formation. Lex Formativa aborde aujourd'hui un sujet très important, l'an 2 de la réforme, et donc comme son nom l'indique, après l'an 1, ce qui était l'année de la réforme, où on a posé des jalons, cette réforme de septembre 2018, on commence à avoir du recul, on commence à avoir des éléments, et c'est intéressant de pouvoir se dire deux choses. La première, c'est qu'est-ce qui a bien fonctionné? Et l'autre élément, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour l'année qui va venir avec cette réforme-là? Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller, tout particulièrement dans nos pratiques de formation? Et pour ça, on a la chance d'avoir Sophia qui va poser toutes les questions qu'on a toujours rêvé de poser.
Bonsoir. Alors, bonsoir Stéphane. Là, je suis donc avec Philippe Bernier. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Sophia.
Alors Philippe, tu vas un petit peu pouvoir nous expliquer ton parcours, mais tu es là avant tout pour parler de la réforme avec nous. Et j'ai une première question qui est assez vague, assez large, mais je pense que tu as plein de choses à dire. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous rappeler les grandes innovations de cette loi de septembre 2018?
Oui, enfin, en tout cas, je vais essayer. On est dans un contexte effectivement très symbolique de cette année 2020. Donc, si on revient un petit peu sur cette année 2018, il y a un fondement important à prendre en considération. Ce sont les 6 dispositifs d'accès à la formation, 3 à l'initiative de l'employeur et 3 à l'initiative du salarié. C'est important pour les responsables de formation de concrètement repérer comment cet accès à la formation s'organise et comment la loi est intervenue dans ce concept. Les dispositifs à l'initiative de l'employeur, donc le plan de développement des compétences, hier on le sait, il s'appelait le plan de formation, et ça c'est la première belle innovation avec la volonté de dire, avec ce changement d'appellation de plan de formation en plan de développement des compétences, on ne veut plus se suffire uniquement de partir en formation, mais on a véritablement besoin de repérer quelles sont les compétences attendues d'un individu suite à une action de formation. Si on pouvait mettre en avant un premier élément d'efficacité de cette réforme de la formation, bah c'était de rappeler que l'acte de formation ne se suffit pas en lui-même, il faut aller au-delà de ça et imaginer comment va se mettre en application les savoirs acquis en situation de travail. Un deuxième élément concerne un dispositif qui a un peu de mal à démarrer, en l'occurrence le dispositif de reconversion-promotion par l'alternance qu'on appelle encore plus communément la PROA. Donc le législateur, l'ordonnance notamment d'août 2019 est revenue un petit peu sur sa mise en œuvre. La main a été donnée aux branches professionnelles pour pouvoir déterminer des actions de formation particulièrement éligibles à la PROA. La possibilité par accord de branche de prendre en charge la rémunération des salariés qui entreraient dans cette dynamique PROA. Je pense que pour là aussi, pour les responsables formation et plus globalement dans une dynamique de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, c'est particulièrement intéressant puisque ça concerne des salariés plutôt en CDI avec, on le sait, un niveau d'études maximum inférieur à la licence et de ce fait qui permettrait de travailler sur une reconversion professionnelle sans pour autant perdre les salariés, notamment des salariés qu'on a envie de garder dans l'entreprise. Donc c'est un deuxième élément qui est très intéressant dans cette réforme. On va voir comment les branches professionnelles vont se l'accaparer. Pour l'instant, bon, voilà, quelques branches ont signé des accords. On attend de voir comment les choses vont évoluer. Mais ça reste un très bel outil au service de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Toujours à la main de l'employeur, on a bien entendu les contrats en alternance avec le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc ces deux contrats en alternance sont en pleine évolution, évidemment. Ils se ressemblent de plus en plus l'un et l'autre. Hein. Oui, donc il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. On verra ce que ça donnera dans quelques années. Pour autant, alors là, moi qui suis co-directeur de l'école de l'alternance de la fac de droit, je suis très attaché à l'alternance. J'y crois beaucoup. Et je suis très heureux que la réforme de la formation continue avec le législateur, les partenaires sociaux à faire développer ce dispositif qui répond à un vrai besoin sur le marché du travail. Voilà, donc on a trois premiers dispositifs à l'initiative de l'employeur qui évoluent avec ces textes de 2018, cette ordonnance de 2019 et une mise en application. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. De l'autre côté, trois dispositifs à l'initiative du salarié. Alors, un premier dispositif qui a connu des grands moments, puisque là, je parle bien entendu du compte personnel de formation. Alors, pour moi, nous en sommes au CPF 3. Le CPF 1, avec une liste d'éligibilité d'actions de formation qu'on avait un petit peu de mal à comprendre, mais ces propos n'entraînent que ma seule responsabilité. Un deuxième CPF qui était plutôt à la main des OPCA, et je dis bien OPCA, pas OPCO.
D'accord.
Et puis, depuis novembre 2019, la fameuse application CPF qui s'est lancée, voilà, qui est un outil intéressant, qui lui aussi se doit d'évoluer hein, dans le temps. On sait que pour l'instant, les entreprises n'ont pas encore la possibilité d'assurer des abondements, mais ça ne devrait pas tarder. Il est prévu que vers juin 2020, les entreprises puissent assurer ces abondements. Bon, voilà, six dispositifs d'accès à la formation qui s'intègre complètement dans une politique formation d'entreprise, donc que le responsable formation doit avoir en main. Et face à ça, juste encore un petit mot pour répondre à ta question, Sophia. Les acteurs que nous rencontrons à l'extérieur des entreprises, voilà, il y a évidemment France Compétences.
Bien sûr.
Alors je trouve que France Compétences, il joue pas mal son rôle parce que c'était pas une mission nécessairement facile. Vous savez que le Code du travail rappelle qu'il porte 14 missions, hein, France Compétences, notamment celle de la certification professionnelle, la certification qualité, évidemment la répartition des financements auprès des différents acteurs. Bon, les choses se mettent en place.
Est-ce que France Compétences, justement, parmi ses différents rôles et fonctions, est-ce qu'il a le rôle de conseil en évolution professionnelle ? Ou est-ce que c'est toujours réservé à certains organismes, Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi ?
Sophia, c'est une question vraiment importante que tu poses, parce que c'est France Compétences qui a attribué donc la répartition suite à un appel d'offres de la maîtrise et de la réalisation du conseil en évolution professionnelle auprès, et ça c'était une volonté du législateur, auprès du marché privé. Et dans chaque région, donc un opérateur de CEP a été donc retenu suite donc à cet appel d'offres.
D'accord.
Mais bon, alors pour tout te dire, bon, le conseil en évolution professionnelle est en train de se relancer, hein, et les opérateurs de CEP donc retenus sont en train de se mettre en place.
D'accord.
Alors désolé, hein, mais ta question elle est tellement importante, le conseil d'évolution professionnelle. Il faut savoir qu'au regard des opérateurs de conseil en évolution professionnelle, il y a un autre acteur qui vient de naître ou renaître, hein, c'est celui qui prend la suite des fonds GESIF, en l'occurrence non pas la CEPIR, hein, Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale, mais une nouvelle appellation pour les remplaçants du fonds GESIF qui s'appelle Transition Pro. Alors on aura les transitions pro Île-de-France, transitions pro Hauts-de-France, etc., qui sont officiellement opérationnelles depuis le 2 janvier 2020 et qui ont, en matière de CEP, un rôle particulier. C'est que ce sont eux qui vont devoir faire un rapport du bon fonctionnement du CEP, un rapport qui sera à rendre à France Compétences en fin d'année.
Très bien. Ah bah tu vois là vraiment j'avais jamais entendu parler de cette mise en place de finalement de quelqu'un qui va récupérer un petit peu les différentes données, les redistribuer, les analyser je suppose et redistribuer les résultats auprès de France Compétences.
Et si tu me permets Sophia, le choix des transitions pro avait du sens puisque les axes fonds GESIF qui sont devenus transitions pro étaient eux-mêmes donc réalisateurs, c'est eux qui assuraient avec Pôle emploi, l'APEC, les OPCA, qui réalisaient des conseils en évolution professionnelle. Donc ils ont toute l'expertise pour pouvoir maintenant donner un avis sur la manière dont le conseil en évolution professionnelle va se mettre en place par les opérateurs nouvellement choisis.
D'accord, très bien. Donc c'est en train de se mettre en place, on attend un petit peu les résultats.
Est-ce que tu trouves que c'est globalement une bonne réforme, une réforme paramétrique, systémique, ça change quelque chose profondément? On parlait de Big Bang, est-ce que finalement tu t'y retrouves là-dedans ou tu te dis ce sont des paramètres qui sont pas inintéressants, mais il y en a d'autres qui sont à venir? Bonne réforme?
Bah oui, moi je trouve que c'est une bonne réforme parce que on est en train de casser des logiques qui commençaient à poser de réels problèmes. Tout à l'heure, quand je parlais de cette nécessité de passer de plan de formation à plan de développement des compétences et de donner à la formation une réalité de résultats, rien que pour ça, tu vois, c'est un élément positif. On se rappelle qu'on ne part pas en formation pour aller en formation. On part en formation avec deux objectifs fondamentaux, l'acquisition de savoir et le développement des compétences, la compétence étant la traduction de l'utilisation du savoir en situation de travail, et de voir émerger cette compétence, je pense que c'est vraiment fondamental. Alors évidemment, il y aura toujours des critiques hein, par rapport aux différents changements. Bon, bah voilà, c'est un principe, c'est presque un principe français. Hein, mais on a un certain nombre de choses, et mes propos n'engagent que moi, mais vous voyez par exemple la fin de la période de professionnalisation au profit de la ProA, je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que la ProA pose par exemple un principe, c'est un avenant au contrat de travail qui est signé à la fois par le salarié et l'employeur, dans lequel on vient dire, voilà, on s'engage sur deux choses, quelle reconversion ou promotion, moi employeur, je vais vous proposer à vous salariés. Et de l'autre côté, quelle durée va prendre cette professionnalisation en alternance? Donc les choses, contrairement à ce qu'on avait pu connaître avec la période de professionnalisation, sont, on l'espère, le plus transparent possible et permettent aux salariés et à l'employeur d'engager une collaboration intelligente. Et pour aller rapidement, pareil sur l'alternance, on essaye de permettre à l'apprentissage d'être encore plus accessible. Bon, on est passé de moins de 26 ans à moins de 30 ans. Les différents éléments qui empêchaient certaines entreprises de vouloir faire de l'apprentissage, ben, petit à petit, on les rend plus simples. Petit à petit, on amène, alors c'est peut-être là où il y a encore une amélioration à développer. Peut-être hein, que ce qu'il faudrait faire demain, c'est, allez, je vous le dis, c'est n'avoir plus qu'un seul contrat en alternance.
Ouais. Finalement, la différence entre apprentissage et professionnalisation, elle tenait aussi à cette population de plus jeunes pour l'apprentissage. Elle était dans un. Moi, j'ai toujours entendu dire, alors dis-moi si c'est ça, que en gros, un apprenti, c'est quelqu'un qui fait des études dans le cadre, enfin, qui travaille à côté, alors qu'un contrat pro, c'est un salarié qui part en formation. Et du coup, cette différence, je l'ai toujours entendu dire, alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, qu'en gros, il y avait cette différence de statut. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que, du coup, bah, là, on arriverait sur des salariés, quels qu'ils soient, en alternance, qui partiraient en formation de manière alternée?
Alors, tu vois, Sophia, le concept de contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, nous avons affaire, d'un côté comme de l'autre, à des contrats de travail, des contrats de travail de type particulier. Mais un apprenti est en contrat de travail, c'est un salarié. Et de l'autre côté, le contrat pro est également un salarié de type particulier, hein, avec des spécificités, mais les deux sont des contrats de travail. Alors, il reste encore des différences entre l'un et l'autre. Je pense qu'il y a une volonté, mais c'est mon avis, de faire évoluer ce principe de l'alternance, sachant que pour moi, contrat d'apprentissage ou contrat de pro, évidemment, comporte encore quelques différences, mais ce qui m'importe, c'est l'individu en lui-même, de voir que ces deux types de contrats vont faciliter l'insertion sur le marché du travail ou la réinsertion. Parce que je rappelle que ce soit contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation sont véritablement des outils pour entrer dans l'environnement de l'entreprise, mais ça concerne aussi des gens notamment pour les contrats de pro, qui ont plus de 26 ans, plus de 30 ans, plus de 45 ans. Il n'y a pas de limite d'âge dans ce contexte-là. Et attaché à ça, on a des formations aussi, et j'en termine avec ça, qui sont certifiantes. Et ça aussi, c'est important, diplôme, titre, etc. Alors, la petite différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de pro, c'est que le contrat d'apprentissage est ouvert au diplôme et au titre, alors que le contrat de professionnalisation, il est ouvert au diplôme, au titre, au CQP et à la qualification d'une manière plus générale.
D'accord. Et est-ce que la réforme sur ce point-là prévoit un accompagnement des tuteurs, des maîtres d'apprentissage, les personnes qui vont accompagner ces alternants, puisqu'on est justement dans une volonté de valoriser l'alternance, de continuer de la valoriser, de continuer de la faire, de la développer. Moi, je travaille dans les ressources humaines, et puis j'entends des managers, des tuteurs qui expliquent que c'est compliqué, que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est vrai. Et quand j'entends pas ça, des fois, je vois aussi des alternants qui sont laissés comme ça sur un poste complet, avec beaucoup de responsabilités, c'est très compliqué, qui se retrouvent parfois en échec parce que ce n'est pas, ils ne savent pas encore faire. Est-ce que la réforme prévoit justement une place, un accompagnement pour ces managers, pour ces tuteurs, ou c'est pas encore, c'est pas pris en compte particulièrement?
Alors voilà une question aussi très importante. Je pense que il peut pas y avoir une intégration dans l'entreprise sans un accompagnement de l'individu. Et c'est pas une question d'âge. Hein. Tout individu, quel que soit son âge, doit être accueilli, accompagné, intégré pour qu'on comprenne des choses qu'on a beaucoup de difficultés parfois à expliquer, ne serait-ce que la culture de l'entreprise dans laquelle on va travailler dans la grande distribution et travailler dans l'industrie. C'est pas la même chose. C'est du travail, mais le contexte, la culture, le vocabulaire n'est pas le même. Tu vois, ta question, elle est fondamentale aussi sur ce point-là. Il y a un gros travail. Alors, oui, pour les contrats d'apprentissage, on a le maître d'apprentissage. Pour le contrat de pro, on a le tuteur. Mais de toi à moi, tuteur, maître d'apprentissage, bah, finalement, la vocation est d'accompagner l'individu.
Bien sûr.
Ce qui importe, et là, le droit ne peut rien y faire, ce qui importe, c'est surtout que le tuteur ou le maître d'apprentissage ait envie d'accompagner. Alors peut-être que à ce stade-là, il y a peut-être encore des améliorations à mettre en place, permettre aux tuteurs ou aux maîtres d'apprentissage d'avoir davantage de moyens pour bien accompagner l'alternant. Je pense que ça peut être une piste intéressante. Et comme le législateur ne l'a pas complètement intégré, eh bien il y a peut-être une responsabilité de l'employeur dans ce contexte-là qui de toute façon rentre complètement dans l'intérêt de l'employeur. L'intégration, de toute façon, n'est favorable que à toutes les parties composées. Le salarié se sentira bien s'il est bien accompagné, mais l'employeur aura un collaborateur investi que s'il se sent bien dans l'entreprise, d'où un rôle de l'employeur que de donner les moyens au tuteur et au maître d'apprentissage d'assurer son job. Mais c'est pas facile, et on en est tous conscients.
Alors, si on parle aussi d'accompagnement, c'est peut-être l'occasion aussi de parler d'une nouvelle posture qui est la FEST.
Oui.
Alors, finalement, il s'agit de quoi?
Bah, tu sais, j'aurais envie de te dire que la FEST, c'est une modalité pédagogique qui existe depuis que, je sais pas, que la femme et l'homme existent. Mais là, on se tromperait, on parlerait plutôt de formation sur le tas. Et tu vois.
On va rappeler que c'est en situation de travail, hein, la formation à FEST.
Voilà. Donc, c'est un autre concept.
Normalement.
Pas tout à fait, vous voyez, parce que c'est là où le législateur a aussi été très intéressant, et aussi le rôle des partenaires sociaux. C'est que la formation sur le tas, pour le coup, on en a tous profité. Quand on arrive sur un lieu de travail, eh bien, il y a toujours quelqu'un, et tant mieux pour nous, qui vient nous dire, bah, je t'explique. Sauf que la formation sur le tas, ce n'est pas prévu, ça tombe quand ça tombe, c'est pas structuré, et puis, bon, bah, ça a la qualité qu'on veut bien. Et de l'individu qui nous dit ce qu'il sait, en pensant qu'il sait ce qu'il sait, et qu'il a la compétence qu'il a. Oh là.
Gros programme.
Alors que la FEST, c'est de la vraie ingénierie pédagogique. C'est structuré, on a quatre éléments clairement arrêtés par le Code du travail. Alors je l'ai dit avec mes mots, hein, mais le premier élément, c'est de repérer quelles activités on veut transformer en compétences. Ça, c'est très intéressant. Contrairement à la formation sur le tas où ça tombe quand ça vient, là, on repère concrètement les choses sur lesquelles l'individu, on veut l'amener à maîtriser une compétence. Premier élément fondamental. Le deuxième point, c'est le formateur en lui-même. Alors ça, c'est mon interprétation, je suis juriste. Le législateur vient dire, bah voilà, le formateur doit être tuteur, et souvent on dit, voilà, il faut du tutorat dans la feste. Moi, ma position, c'est plutôt de dire, le formateur doit respecter les critères du tuteur, et que dit le droit pour être tuteur? Il faut prouver avoir au moins 2 années d'expérience professionnelle dans l'environnement de l'activité de l'individu que l'on va accompagner. Et vous allez voir, ce sujet, il me passionne parce que ça rappelle un point, n'importe qui ne peut pas faire de la formation en situation de travail. On se doit d'avoir des formateurs qui sont de terrain, et pour être de terrain, il faut avoir de l'expérience. Et c'est là où le législateur a été très intéressant de positionner ce rôle de formateur-tuteur. Bon, après, vous en avez qui disent, bon, il faut aussi qu'il joue un rôle de tuteur, mais c'est pas tout à fait comme ça que je l'ai vu, mais peu importe. Le troisième point de la FEST, il est aussi fondamental. On est en situation de travail, et contrairement à une action de formation où vous voyez le programme défiler progressivement, il est important d'avoir des temps réflexifs. C'est le troisième point. En ce sens où, quand vous êtes en situation de travail, vous bossez tout en apprenant. Sauf que la progression pédagogique, vous ne la voyez pas réellement. Ce troisième moment de temps réflexif, il est fondamental parce que c'est l'occasion de dire on s'arrête et puis on regarde ce qui s'est passé, ce qu'on a appris et comment les choses se sont organisées par rapport justement aux activités qu'on veut transformer en compétences. Et enfin, alors là pour la première fois, le législateur vient dire il faut une évaluation des acquis. Et en règle générale, vous savez, on parle d'une évaluation. Alors de temps en temps, on a même cette folie de dire, vous savez, ces évaluations à température, à chaud, à froid, à tiède, à glacé. alors que là, le législateur dit non, il faut une évaluation des acquis. Et on pourrait être étonné en se disant, mais évaluation des acquis, hein, c'est bizarre. On est en formation en situation de travail, ce serait peut-être mieux d'avoir une évaluation de compétences. Voilà, compétences, c'est transposition des savoirs sur le terrain. Donc là, on constate, mais non. L'ambition est de ne pas tomber dans la compétence idiomatique. Je m'explique en deux mots. Imaginez, vous avez un individu qui est face à une machine, il a suivi une formation en situation de travail, et on lui dit, vas-y, montre-nous que tu sais faire fonctionner cette machine. Il tourne les boutons à droite, à gauche, etc. Et puis, à un moment, il est tout fier, la machine fonctionne. Et quelqu'un lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as tourné le troisième bouton de 3 crans à droite? Et la réponse de la compétence idiomatique, ce serait de dire, parce que on m'a dit de le faire. La logique de l'évaluation des acquis, c'est justement de vérifier que l'individu sait pourquoi il tourne le troisième bouton de 3 crans à droite ou à gauche, hein, c'est comme vous voulez.
Ça marche aussi. Et alors, parce qu'on a posé la question, et pour la vérification de la présence.
Ah, la vérification.
La feuille de présence.
C'est pas compliqué, hein. Vous savez, nous sommes dans une époque libérale où on fait ce qu'on veut, quand on veut, sauf que là, c'est pas mal d'avoir une feuille d'émargement quand même. C'est pas compliqué, on a un formateur, on a un stagiaire, mettre en place une feuille d'émargement, y compris pendant les temps réflexifs, je vois pas en quoi c'est gênant. Et si on veut entrer dans la nouvelle technologie, vous prenez une tablette et puis vous faites signer sur la tablette et puis tout va bien.
Très bien. Justement, alors on aborde le e-learning. Est-ce qu'il y a eu des changements avec la réforme?
Alors oui et non, il y a eu des changements. En fait, le législateur pose 3 critères pour qu'on puisse repérer du e-learning. J'aurais envie de dire au titre de ce que nous on appelle le cadre légal de la législation de la formation, parce que d'un autre côté, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler, mais il y a le cadre libéré, mais on y reviendra. Le cadre légal du e-learning, c'est de venir dire, voilà, il faut que à minima, on ait donné toutes les informations nécessaires pour que l'individu sache comment va se mettre en place cette formation e-learning, notamment le contenu de la formation, à quel moment il doit se connecter. Le deuxième point, c'est de venir être très clair sur l'accompagnement technique et pédagogique. En d'autres termes, j'ai des questions sur l'utilisation du logiciel, de la mise en marche du machin, tout ça. Est-ce que je peux poser des questions à quelqu'un? Oui. Et quand même, une chose qui est assez nouvelle depuis 2018, c'est de dire il y a aussi la possibilité de poser des questions d'ordre pédagogique. C'est-à-dire, voilà, il y a telle question ou tel passage, je ne comprends pas bien, est-ce que vous pourriez m'apporter des explications complémentaires? Là, ça a du sens. Et le troisième élément lié au e-learning, à la FOAD, hein, c'est là encore, l'évaluation. Sauf que le législateur, là, ne va pas parler d'évaluation des acquis ou d'évaluation de compétences. Il va laisser une certaine liberté, sachant que dans une certaine logique, dans le cas du e-learning, c'est souvent d'évaluation des acquis que nous allons. Et bon, c'est pas fermé, mais c'est souvent comme ça que les choses se mettent en place. Alors, il y a juste une chose, si on avait à améliorer la réflexion, juste un point juridique sur lequel on pourrait s'inquiéter. C'est quand quelqu'un se connecte donc sur un produit e-learning à la demande de l'employeur. Vous vous souvenez que le droit est très clair. Lorsqu'un salarié donc part en formation, il est rémunéré.
Oui.
Le problème du e-learning dans le cadre du plan de développement des compétences, lorsque vous avez quelqu'un de très corporate, hein, par exemple, qui vous dit « Bon, moi, la journée, je travaille, donc je vais attendre le soir de rentrer tranquillement à la maison et je vais me connecter sur mon produit e-learning », il pourrait y avoir un petit souci, un petit malentendu.
Ou si c'est la nuit avec le travail de nuit.
Oui, le 1er mai.
Oui, exactement. Voilà. Hein.
Et puis, au-delà de la question financière, qui est pas négligeable, il y a aussi la question du droit à la déconnexion. C'est une vraie question qui est dans beaucoup de bouches et dans beaucoup d'esprits actuellement. Ça pose ce problème-là aussi. En tout cas, ça pose la question. Est-ce que ça pose un problème? Je ne sais pas. Mais...
Et donc, sur la rémunération, pardon Philippe, je t'ai coupé, tu arbitrerais comment, toi, si un responsable de formation te pose la question?
En fait, c'est pas moi qui vais l'arbitrer, hein. C'est le législateur et parfois l'inspecteur du travail, voire les URSSAF. En fait, ce serait de dire, si on a un collaborateur qui se connecte le soir sur un produit e-learning renvoyant à une demande de l'employeur, donc au titre du plan de développement des compétences, on pourrait partir du principe que c'est du temps de travail. Et dès lors, on a intérêt à rappeler aux responsables formation et aux RH en règle générale que y a une information importante à faire passer aux salariés. Vous savez, à l'époque, on parlait des PIF, vous savez, des programmes des protocoles individuels de formation dans lesquels on disait voilà, vous pouvez vous connecter, mais durant le temps de travail ouvré.
Oui.
C'est un rappel qu'on fait, mais petite remarque. C'est la raison pour laquelle aussi vous avez des entreprises qui ont développé les LMS, enfin les plateformes où on vient dire aux salariés mais venez consommer des produits e-learning, parce qu'à partir du moment où la demande n'est pas clairement faite par l'employeur, ce n'est pas du plan de développement des compétences. Si c'est de la seule volonté du salarié, eh bien là il n'y a plus d'obligation de rapport au temps de travail.
D'accord. Malin.
Oui. Malin.
Mais c'est aussi un des comportements nouveaux des apprenants, c'est que les apprenants aiment bien apprendre quand ils le veulent, et donc au lieu d'apprendre sur des formats qui sont imposés, c'est aussi une nouvelle liberté.
Oui, mais tu as complètement raison. C'est pour ça que moi j'ai tendance à parler du cadre légal et du cadre libéré. Le cadre légal, c'est de rappeler que vous avez des formations qui doivent impérativement se dérouler durant le temps de travail, avec rémunération dans des contextes que le droit du travail a imposé. Et après, vous avez un rapport libéré, hein, on ne va pas oublier l'appellation de la loi, hein, liberté de choisir son avenir professionnel, ça veut dire aussi liberté de choisir quand je me forme, mais cette décision de choisir quand je me forme doit être de la seule décision du salarié, sinon il pourrait y avoir des malentendus par rapport à ça. Sophia, tu posais une question tout à l'heure sur le e-learning, mais je...
Non, je parlais du droit à la déconnexion.
Oui, voilà.
C'est cette question qui est un peu en parallèle, finalement, des heures de travail.
Mais voilà, tout ça renvoie aussi à une culture d'entreprise. Vous avez des entreprises dans lesquelles, culturellement, le droit à la déconnexion est fondamental. Vous avez des entreprises, et il n'y a pas de reproche qu'on fait dans les propos que je tiens, hein, pour lesquels le droit à la déconnexion n'est pas le sujet premier, même si, je permets de le rappeler, Le droit à la déconnexion renvoie au titre de l'article L63-21-2, juste pour faire croire que je m'y connais.
Non, mais ça fait bel effet, on aime bien.
Ça nous enlève la voix, quoi, je veux dire.
Ça renvoie donc aux formations obligatoires. Et je rappelle que les formations de droit à la déconnexion font partie des formations obligatoires. Donc, pas très respectées, mais il y a une obligation juridique par rapport au droit à la déconnexion. Et Sophia, ta question, elle est fondamentale, parce que moi, ça m'importe qu'à un moment, on sache qu'il y a des moments où on est bon au travail, parce que, justement, on trouve le temps de se ressourcer.
Complètement, tout à fait. C'est vraiment, ça peut paraître paradoxal, mais c'est très logique.
Impeccable. Alors, effectivement, on a vu là toute la réglementation. Qu'est-ce qui va arriver sur l'année 2020?
Voilà.
Qu'est-ce qu'il faut surveiller?
Alors, il y a des choses très, très, très précises à surveiller. Il y a une chose qu'on appelle la garantie d'accès à la qualification. Alors, vous savez que depuis 2014, la loi est venue imposer aux entreprises, à toutes les entreprises, mais notamment aux entreprises de 50 salariés et plus, la réalisation des entretiens professionnels. Qu'on ne s'y trompe pas, les entretiens professionnels sont toujours obligatoires, on doit toujours les faire au moins un tous les 2 ans, et c'est très symbolique cette année 2020 parce que c'est l'année du bilan. Oui, c'est l'année du bilan, et d'ailleurs il y a une note, un question-réponse qui vient de sortir donc de la DGEFP qui rappelle que le bilan à 6 ans, pour les salariés qui sont dans l'entreprise depuis avant le 7 mars 2014, le bilan à 6 ans doit être fait au 7 mars 2020, que le troisième entretien professionnel doit être fait au plus tard le 7 mars 2020, et que nous avons, donc ça c'est le premier élément sur lequel il va falloir réfléchir, parce que ne pas avoir réalisé les entretiens professionnels au moins un tous les 2 ans depuis 2014 entraîne le fameux abondement correctif de 3 000 euros. Donc ça, j'y reviendrai.
Par salarié concerné.
Oui. Alors ça, c'est bien, parce qu'un jour, une entreprise me disait, mais 3 000 euros, c'est rien. Je lui dis, mais c'est quand même par salarié. Effectivement. Donc ce sujet-là, il est important, parce que je pense qu'on a eu un petit peu de mal à lancer la machine, et on a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas complètement réaliser ces entretiens professionnels.
Qui réalise les entretiens professionnels? Responsable de formation, les RH?
Alors, tu vois, l'entretien professionnel a une vocation, c'est de se projeter dans l'avenir avec le collaborateur. Il y a deux façons de se projeter dans l'avenir. Avec le manager, on peut se projeter dans l'avenir, dans des missions que le collaborateur n'a pas encore à assumer à l'heure actuelle, mais qui pourrait donner lieu à un échange avec le manager en disant, voilà, demain, j'aimerais bien voir mon job évoluer, j'aimerais bien que vous puissiez me confier de nouvelles responsabilités. Ça a du sens que le manager puisse échanger dans le cadre de l'entretien professionnel avec son salarié. D'un autre côté, sur d'autres logiques de développement des compétences, un salarié, par exemple, qui voudrait changer de job dans son entreprise, ou voire quitter son entreprise, le manager n'est plus le bon interlocuteur dans ce contexte-là, ce sont les RH qui doivent prendre le relais. Ce qui nous amène à penser parfois que l'entretien professionnel a tout son sens d'être réalisé par le manager, et aussi pour des raisons pratiques. Quand on est dans de très grandes entreprises, les RH n'ont pas le temps de faire passer des entretiens à tout le monde. Mais de dire à un moment, voilà, le manager fait son boulot d'échanger avec le collaborateur sur des projets pour lesquels lui, manager, a de possibles réponses. Lorsque le manager n'a plus de réponse au projet du collaborateur, de proposer aux salariés de rencontrer les RH, ce qui ferait que les RH ne rencontreraient pas tout le monde, mais ne rencontreraient que les collaborateurs qui ont des projets de changement d'emploi dans l'entreprise, ou voire de quitter l'entreprise. Un salarié qui ose dire « j'ai envie de quitter mon entreprise », ça a de la gueule, parce que ça permet, mais vraiment, si c'est pris bien en amont, ça permet plein de choses. Notamment de le retenir.
Et puis les entretiens professionnels, excuse-moi, Stéphane. Les entretiens professionnels, je m'arrête si je me trompe, mais il y a une vraie volonté, en tout cas, il y a vraiment la logique de faire passer à la fois, certes, les les envies, les projets du collaborateur, mais aussi la stratégie de l'entreprise. Enfin voilà, il y a le manager, l'entreprise représentée par les ressources humaines, le développement RH, etc., et le collaborateur. Et c'est vrai que cette relation un petit peu entre les besoins et les envies de chacun, moi, pour le voir dans mon travail, je vois que c'est parfois très compliqué parce que justement, les managers ne connaissent pas forcément les besoins de l'employeur, si c'est des grosses boîtes où il n'y a pas forcément communication sur ces sujets-là, ne savent pas répondre aux collaborateurs. Alors, à ce moment-là, ils peuvent, comme tu dis, les rediriger vers les ressources humaines et puis parfois, tout accepter. Bah, oui, tu veux une formation, prends une formation, tu veux ci, prends ça. Et en fait, derrière, l'employeur, entre guillemets, se retrouve un peu embêté avec un développement des compétences dans son entreprise qui ne colle pas à sa stratégie, notamment de GPEC.
Et qu'est-ce que tu penses, pour compléter la remarque de Sophia, des gens qui disent finalement, même les ressources humaines sont parfois en défiance, le salarié qui dit « moi, je veux quitter la boîte, mais j'en suis pas sûr, donc j'hésite à le dire ou on prépare mon départ au bout d'un moment ». Donc, ça crée une défiance. Des personnes qui disent « je préfère le faire par un organisme extérieur, professionnel, etc. » Comme ça, il y a plus de liberté de parole. Les gens sont capables de dire « je m'y retrouve pas, mais j'ai pas d'autre choix. » Donc, il y a une vraie liberté de ton. Alors qu'en interne, quand on a son patron et qu'on dit qu'on le supporte pas, souvent, c'est un peu délicat. Donc, est-ce que toi, tu conseilles dans des entreprises d'aller travailler avec des prestataires extérieurs ?
Alors Stéphane, ta question elle est importante, mais je dois te dire que notre propre cabinet assure des entretiens professionnels pour les entreprises. Donc on a vécu des expériences magnifiques, et surtout avec des salariés qui finalement parfois s'expriment plus facilement avec un individu qu'ils ne connaissent absolument pas. Il y a une liberté d'échange parfois de l'individu, parce que finalement, échanger avec son manager, c'est pas toujours simple. Échanger avec les RH, bah, les RH, c'est quand même un peu la direction. Nous, on a vécu des grands moments, Stéphane, lorsqu'on a réalisé, on réalise encore des entretiens professionnels. Après, il faut pas se tromper de combat. L'entretien professionnel a quand même pour vocation d'évoquer avec le salarié son devenir, mais son devenir dans l'entreprise, ce qui fait que celui qui porte de l'extérieur la réalisation de l'entretien professionnel, il doit le faire, mais en ayant quand même une conscience certaine de la réalité de l'entreprise dans laquelle il est. En d'autres termes, c'est pas quelque chose qui peut être fait comme ça du jour au lendemain. Un intervenant externe qui réalise des entretiens pro doit apprendre à connaître l'entreprise, sinon on se fourvoie.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut surveiller ?
Oui, alors tout à l'heure, je vous parlais des 6 dispositifs d'accès à la formation, mais en fait, je ne vous les ai pas tous cités.
C'est vrai. Il y en avait 5.
Voilà.
Bravo.
Alors, le cinquième, Sophia, j'y reviens quand même, hein, c'est le remplaçant du congé individuel de formation. Alors là, j'ai quand même une chose importante à vous dire. Tout le monde l'appelait le CPF de transition. Sachez que là, pareil, la DGEFP s'est positionnée et a dit que pour des raisons de compréhension, il fallait l'appeler projet de transition professionnelle. Donc là, on ne l'appelle plus CPF de transition. Et moi, c'était un combat que j'avais pour deux raisons. D'abord, parce que le Code du travail parle de projet de transition professionnelle. Et pour une autre raison, tout simplement parce que les salariés ne s'y retrouvaient pas entre le CPF d'un côté et celui qu'on appelait le CPF de transition. C'était pas clair. Notre système est déjà pas simple. Donc là, on tranche, on l'appelle projet de transition professionnelle. Ça a du sens. Et le seul lien que ça a avec le CPF, vous le savez, c'est que quand quelqu'un veut mobiliser et veut faire une demande de projet de transition professionnelle, on va d'abord, par défaut, mobiliser ses fonds, son argent au titre du compte personnel formation. Mais c'est le seul lien que nous avons. Les structures remplaçant les fonds GESIF, les transitions pro, sont très attachés donc à ce que le projet de transition professionnelle s'appelle tel quel, mais qu'il renvoie à un vrai projet professionnel. Et vous avez une recommandation de France Compétences qui est particulièrement intéressante, qui dit on peut très bien, dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, ne pas quitter son entreprise. Alors, je vous le dis parce que autrefois, vous savez, quand quelqu'un disait, voilà, je veux faire un congé individuel de formation, on le regardait, on lui disait, pourquoi, tu veux quitter l'entreprise ? C'était souvent la réaction. Là, c'est très intéressant de savoir que France Compétences rappelle que le projet de transition professionnelle, la reconversion professionnelle, peut très bien s'imaginer dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et ça, je trouve ça particulièrement passionnant. Bon, après, il faut bien entendu respecter les critères d'éligibilité. Et vous avez un sixième dispositif, qui est opérationnel depuis quelques temps, mais qu'on découvre un peu plus depuis la rentrée, qui s'appelle le projet de reconversion professionnelle. Et ce dispositif donne la possibilité à des salariés, après avoir obtenu un avis sur le caractère réel et sérieux de leur demande, eh bien, de faire quelque chose d'assez étonnant, de pouvoir démissionner de l'entreprise pour pouvoir réaliser une action de formation après avoir démissionné, mais avec un élément essentiel, c'est de continuer de bénéficier du chômage. Oui, alors dans les entreprises par exemple qui ne pratiquent pas la rupture conventionnelle, bien le salarié se dit oui, mais moi si je démissionne, je vais me retrouver sans rien et j'ai besoin de manger. Là on est dans une dynamique intéressante qui vient dire si vous avez des projets pour changer de métier ou si vous avez des projets pour créer ou reprendre une entreprise, eh bien si Transition Pro, vous voyez, il réintervient une deuxième fois dans ce schéma, donne un avis de caractère réel et sérieux donc du projet, eh bien le salarié pourra démissionner. Et une dernière chose, dans ce contexte-là, le conseil en évolution professionnelle est obligatoire.
D'accord.
Donc vous voyez, la machine se met en place.
Oui, tout à fait.
Ça veut dire, sur cette notion de projet, ça veut dire que il postule devant un jury qui va évaluer la faisabilité de son projet, la crédibilité, ou tous les projets sont bons?
Non, Stéphane, tous les projets ne peuvent pas être bons. On passe d'abord dans un premier temps dans le cadre du conseil en évolution professionnelle auprès des opérateurs concernés. Et ensuite, le dossier est présenté donc à Transition Pro, dont le rôle est de donner de l'argent. Transition Pro ne donne pas d'argent, mais donne un avis fondamental, un avis sur le caractère réel et sérieux, qui permet aux salariés ensuite de démissionner. Et ensuite, il a 6 mois pour se faire connaître de Pôle emploi pour bénéficier du chômage. Alors, il y a juste un petit bémol à tout ça, parce qu'il y en a toujours, malheureusement. Il n'y a pas de certitude de financement de la formation.
D'accord. C'est laissé au jugement de qui ?
Alors, laissé à deux éléments. Ou l'individu a suffisamment d'argent sur son CPF et il va le mobiliser, ou bien il mettra en place un partenariat avec Pôle emploi, mais en fonction des moyens, évidemment, de Pôle emploi.
Très bien.
Allez, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments qu'il va falloir surveiller pendant cette année à venir ?
Un dernier élément. Un dernier élément, tout à l'heure je vous ai parlé de la garantie d'accès à la qualification. Il y a 3 points liés à la garantie d'accès à la qualification. Le premier point, donc, c'est le bilan à 6 ans à faire. Ce bilan à 6 ans a pour ambition de rappeler que les entretiens professionnels ont eu lieu, que le salarié a ou non bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle, qu'il a bénéficié d'une certification totale ou partielle, et puis selon qu'il a bénéficié ou pas d'une formation non obligatoire. Alors, si on peut terminer sur ça, si vous en êtes d'accord, c'est pas simple de dire dans les entreprises qu'elles ont l'obligation de mettre en place une formation non obligatoire pour les salariés. Cette phrase, elle est bizarre.
Oui.
Et pour autant, la définition de la formation non obligatoire, elle est juridiquement clairement tranchée, et ça, il faut que les responsables de formation le sachent. Les formations obligatoires, celles qui sont définies par l'article L6321-2, il y a à peu près 17 pages de formation obligatoire dans le Code du travail. Eh bien, pour savoir ce qu'est une formation non obligatoire, de manière très simple, évidemment c'est toujours plus compliqué en fait, on prend les 17 pages de formation obligatoire et on part d'un postulat. Si la formation que je suis n'est pas dans les 17 pages, eh bien par défaut, elle est non obligatoire.
Très bien, donc ça c'est une bonne analyse.
C'est concret.
Impeccable. Si effectivement, merci Philippe, c'était vraiment très intéressant.
Grand plaisir,
J'adore
ouais.
ta façon structurée de présenter les choses. C'est très pédagogique, donc merci beaucoup. Si on a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de l'émission, on transmettra. Mais si on veut te rencontrer parce qu'on est sous le charme de tout ce que tu as dit, ou on veut te poser en direct des questions, comment est-ce qu'on fait?
Bon, écoutez, le plus simple, c'est de m'envoyer un mail, hein. Donc, est-ce que je peux me permettre de donner mon mail?
Absolument, tout à fait.
Voilà, donc c'est ph, comme Philippe, ph.bernier, Bernier, caraxo, caraxo.fr.
Impeccable. Et tu t'engages à répondre à tout le monde.
Mais bien sûr, aux millions de questions que je vais recevoir.
Oui, très bien. Ça, je te le souhaite. C'est que c'était passionnant, ou peut-être que tu as dit quelque chose qui n'était pas bon, mais on l'aurait noté. Donc, merci beaucoup à toi. C'était vraiment très intéressant. Merci, Sophia, pour toutes tes questions.
Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'était
Merci,
passionnant.
Sophia. Merci,
Merci.
Stéphane.